Une double vie, une certitude, une peur, c'est la règle de trois de Catherine Vidal. Sa double vie se partage entre ses activités de chercheuse et sa passion pour la vulgarisation scientifique. Doctorante en neurophysiologie en 86, nommée directrice de recherche en 97, Catherine Vidal s'est particulièrement penchée sur les mécanismes de vie et de mort des neurones en lien avec les maladies neurodégénératives. Dans l'autre aspect de sa vie, la vulgarisation, elle a été amenée à démontrer l'absurdité des stéréotypes sur les différences entre les sexes.
Les femmes seraient multitâches, hein. On remarquera que c'est particulièrement à la maison qu'elles sont multitâches, hein.
La seule différence notable entre un cerveau de femme et un cerveau d'homme concerne le contrôle des fonctions liées à la reproduction. Pour le reste, tout dépend de l'environnement social, culturel et familial. Catherine Vidal a aussi beaucoup expliqué la notion de plasticité du cerveau. En résumé, notre cerveau se modifie tout au long de notre vie en fonction des expériences vécues. Il n'est donc jamais trop tard pour s'élever, progresser, apprendre.
L'expérience faite sur l'apprentissage du jonglage montre que les personnes plus âgées peuvent aussi bien avoir des connexions qui se fabrique de nouveau dans le cerveau.
Une certitude émane à la lecture de son dernier ouvrage « Nos cerveaux resteront-ils humains ?» Pour Catherine Vidal, c'est clair, le fossé entre l'intelligence humaine et une intelligence artificielle ne sera jamais comblé. Pensée, émotion, imagination émergent de ce qu'elle appelle une symphonie cérébrale, alors que les machines ne fonctionnent que grâce à des algorithmes binaires. Les prophéties des transhumanistes comme Raymond Kurzweil, le directeur de l'ingénierie chez Google, sont donc des leurs.
They'll connect our brain to the cloud to basically enhance the qualities of humanity that we value.
Une crainte subsiste néanmoins. Aujourd'hui déjà, par exemple, dans une usine chinoise à Hangzhou, 40 000 ouvriers sont munis de casques qui mesurent leur niveau de concentration et les salariés jugés peu concentrés sont affectés à des tâches subalternes. La crainte est là. À cause de l'intelligence artificielle, un monde de surveillance généralisée des cerveaux humains pourrait advenir.
Voilà, Catherine Vidal, nos cerveaux resteront-ils humains? Catherine Vidal, si on comprend bien, la clé, c'est la plasticité, source d'émerveillement et aussi source d'accroissement des potentialités, des possibilités du cerveau.
Oui, la découverte de la plasticité cérébrale est quand même une sorte de révolution par rapport aux conceptions antérieures qu'on avait du cerveau, où on pensait que les circuits de neurones étaient plus ou moins fixés depuis la naissance par un programme génétique. Or, depuis une vingtaine d'années, on a fait énormément de progrès dans nos connaissances et on s'aperçoit que notre cerveau est en permanente évolution, c'est-à-dire que des circuits de neurones se font, se défont en fonction des apprentissages et des expériences vécues.
Racontez-nous l'histoire des chauffeurs de taxi et de leur hippocampe, zone de mémorisation, hein, je crois, une des zones
oui,
de mémorisation.
Le... Ce qui est intéressant, c'est que grâce à l'imagerie cérébrale par IRM, on a pu enfin voir vraiment le cerveau se modifier en fonction des apprentissages. Alors qu'avant, on en avait une idée plutôt théorique. Mais là, pratiquement, on voit que des certaines zones du cortex cérébral ou des zones associées à la mémoire spatiale, comme chez les chauffeurs de taxi, peuvent changer de volume en fonction du nombre d'années d'expérience de la conduite des chauffeurs de taxi.
Ils arrêtent de conduire, l'hippocampe revient à son stade initial. Ah, d'accord, il ne faut jamais s'arrêter de conduire, Frédéric.
Oui, au-delà de la science-fiction, moi j'ai découvert des choses dans votre livre qui existent déjà. Par exemple, avec des micro-électrodes, on peut d'ores et déjà réduire le tremblement des personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Ça, ce n'est pas de la science-fiction, ça existe d'ores et déjà.
Ça existe depuis plus de 20 ans. Et avec des succès considérables, hein, qui fait que maintenant, de plus en plus, de par le monde, hein, au départ, la technologie a été mise au point à Grenoble. Et vraiment, il y a des progrès pour la qualité de vie de ces personnes et ces stimulations intracérébrales profondes, hein, il faut implanter des électrodes dans le cerveau, font que les tremblements et la rigidité sont largement améliorés.
Alors Catherine Vidal, de l'amélioration à l'augmentation, il n'y a qu'un pas que certains apprentis sorciers ont envie de franchir. Est-ce qu'on peut greffer le neurone et le transistor, pour parler un peu vulgairement, autrement dit, est-ce que le cerveau augmenté est une réalité? L'homo deus, comme disent des gens comme ceux qu'on vient de voir, Ray Kurzweil par exemple.
Oui, ces gens nous prédisent un futur où on pourra télécharger la pensée dans des microprocesseurs pour en fait arriver à fusionner l'intelligence humaine avec l'intelligence artificielle.
Vous vous y refusez parce que c'est contre vos valeurs ou c'est totalement invraisemblable, c'est-à-dire que la pensée doit être dans le corps humain, ne peut pas se loger ailleurs que dans le corps humain.
Voilà, c'est pas une histoire de valeurs, oui. C'est une histoire de réalité scientifique, à savoir la réalité du fonctionnement du cerveau fait que l'intelligence humaine ne peut pas être téléchargée dans une puce en silicium, c'est-à-dire que l'intelligence est indissociable du cerveau et du corps.
Mais au-delà de la faisabilité, est-ce que ça pose aussi des questions éthiques ? C'est techniquement pas possible, c'est ce que vous dites, le cerveau humain sera toujours supérieur, mais est-ce qu'il faut continuer à l'espérer ? Idéologiquement ?
C'est pas la question, c'est pas qu'il soit supérieur ou inférieur par rapport à l'intelligence artificielle. C'est la réalité des prophéties qu'on nous annonce. C'est-à-dire séparer la conscience du corps, c'est un scénario de science-fiction, ou bien c'est un discours qui relève de la mystique religieuse. Mais ce n'est absolument pas une démarche qui est tenable scientifiquement face à la réalité du fonctionnement du cerveau.
Comment expliquez-vous, vous êtes scientifique, que dans la Silicon Valley aux États-Unis, des millions et des dizaines de millions de dollars soient investis dans les recherches par Elon Musk et par d'autres, par Kurzweil, par d'autres? C'est de l'argent à fond perdu?
Il y a le développement des neurotechnologies fait que, pour les aspects qui concernent la réparation du cerveau. Ça, c'est un domaine de recherche extrêmement actif et c'est très important parce que dorénavant, on sait avec des moyens technologiques qu'on n'avait pas avant, on est capable de réparer certains aspects du cerveau en créant justement des nouveaux circuits de neurones qui vont prendre le relais des circuits déficients. Et ça, c'est grâce à la plasticité cérébrale, on y revient toujours. Bon.
Les femmes et les sciences, ça va vous intéresser, Nadia ?
Oui, parce que le 11 février dernier s'est déroulée la 5e édition de la Journée internationale des femmes et des filles de science. C'est une journée qui a été mise en place par l'ONU dans le but de promouvoir, de faciliter l'accès des femmes aux disciplines scientifiques, que ce soit à l'école ou dans l'emploi. Et si on en est là, s'il faut une journée internationale comme une grande cause, c'est parce que tous les chiffres indiquent qu'en effet, il y a des préjugés qui éloignent les filles des disciplines scientifiques. On sait par exemple qu'il y a des études qui ont montré qu'en moyenne, les enseignants notaient plus sévèrement les filles dans des matières scientifiques. En cours de maths, très précisément, il y a 2/3 d'interactions avec les garçons et 1/3 avec les filles. On sait également, on le constate, que les filles sont généralement surreprésentées dans les matières littéraires et sous-représentées dans les matières scientifiques, et ça continue après dans la vie professionnelle. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Est-ce qu'on est apte ou plus ou moins apte à une discipline en fonction de son genre ?
Oui, c'est en fonction du genre et pas du tout en fonction du cerveau.
Et du cerveau, oui. Parce qu'un cerveau...
Si les filles s'orientent davantage dans des matières littéraires ou dans la médecine, et les garçons vont davantage dans les sciences...
C'est le conditionnement culturel.
Techniques, bien évidemment. Bien, c'est à cause des normes sociales et des stéréotypes sur les métiers qui font qu'il va y avoir des choix d'orientation différents.
Donc le cerveau n'a pas de sexe, c'est ce que vous dites.
Le cerveau est ouvert à tout.
Et quand vous regardez,
une spécificité qui serait là depuis la naissance.
Catherine Vidal, quand vous regardez sur un IRM, vous posez un cerveau masculin, un cerveau féminin. Il y a une différence ? À l'œil.
Bien sûr qu'on ne peut pas le voir.
On ne peut pas le voir.
Parce qu'on a tous des cerveaux différents. C'est-à-dire qu'il existe bien évidemment des différences entre les cerveaux des femmes et des hommes, mais il y en a tout autant entre les cerveaux de personnes d'un même sexe.
Vous voulez poser une question ?
Oui, vous évoquez dans le livre le danger également de ces implants, de ces puces dans l'avenir par les partisans du transhumanisme. Vous dites qu'il n'y a pas seulement une contestation scientifique, il y a aussi une contestation presque sociale, car c'est le risque d'une humanité à deux vitesses entre ceux qui pourront se faire greffer des implants et ceux qui n'en auront pas.
Oui, mais ça, ce sont des prospectives, à condition que ça se fasse. Parce que le problème, c'est qu'on finit, il y a une sorte de banalisation de ce discours, et on finit par croire que ça va arriver.
C'est inéluctable.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de dire à un grand public quel est l'état des connaissances sur le cerveau, et comme ça, on pourra aider un plus grand nombre à distinguer ce qui relève du prouvé, du probable et du fantasme.
Catherine Vidal, pour augmenter son cerveau sans l'intelligence artificielle, il faut aller à l'école et il faut être curieux, n'est-ce pas ?
Voilà, puis il faut aussi manger de façon équilibrée, faire du sport.
Des oméga-3, entre autres. Nos cerveaux resteront-ils humains ? Vous espérez que oui, et nous aussi. Catherine Vidal, merci d'être venue.